Bienvenue dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service, l'émission des fêtes sociétés de Radio Okapi. Et comment impliquer les jeunes dans la lutte contre la criminalité phonique dans les forêts du bassin du Congo? Nous abordons ce sujet avec Adam Kasinga, il est promoteur de l'ONG Congo Conserve, à qui nous disons bonjour.
Bonjour Tati, et merci pour l'invitation.
Bienvenue et merci d'avoir répondu à l'invitation d'Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, voici le numéro de contact 081-890-6394, c'est pour les appels en direct. Par SMS, envoyez-nous vos questions, suggestions et commentaires au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de poster vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service ou par courriel dénommé service@radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui présente cette émission sous la supervision de Jean-Marc Matwaki. Marcel Ngombo coordonne et réalise cette émission et Mimiki Dou s'occupe de la prise des sons. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne condition d'écoute du magazine Okapi Service.
Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de votre interview.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience qu'il n'a pas bien travaillé.
Les intouchables dans ces pays n'existent pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Merci de rester branché à Radio Okapi, la fréquence de la paix. La RDC est un pays du bassin du Congo dont la diversité biologique est l'une des mieux nanties au monde selon les experts en sciences et de l'environnement. Et pour la protéger, elle s'est dotée d'un cadre légal assez riche et varié et qui intègre différentes dispositions de protection de la faune sauvage sous tous les aspects ainsi que des institutions qui permettent non seulement de prévenir les infractions phoniques mais aussi de les réprimer. Mais malgré la présence de cet arsenal juridique, certaines personnes font les trafics des espèces protégées. Et comment impliquer les jeunes dans la lutte contre la criminalité phonique dans les forêts du bassin du Congo? Nous en parlons avec Adam Kasinga. Nous rappelons qu'il est promoteur de l'ONG Congo Conserve. Bonjour.
Bonjour encore une fois, Tati.
Oui, dites-nous, présentez-nous un tout petit peu votre structure.
Voilà, Conserve Congo est une organisation locale ici en RDC. Nous sommes basés à Kinshasa avec un bureau satellite au niveau de Goma. Alors, ça fait une dizaine d'années que nous existons, déjà vers février l'année prochaine, cela fera 10 ans. Et nous avons comme objectif phare de lutter contre le braconnage et le trafic illicite des espèces phoniques et floristiques. Bien sûr, nous avons d'autres objectifs qui sont secondaires, celui d'éduquer la masse avec un focus spécial sur les jeunes entre l'âge de 12 et 18 ans. Mais aussi, nous essayons d'encourager l'agroforesterie, non seulement comme une façon d'instaurer une sécurité alimentaire ici chez nous, mais aussi comme une option pour les gens qui seraient intéressés par le braconnage ainsi que le trafic.
Adam, dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé au fait à concentrer vos activités dans la lutte contre le braconnage et le trafic illicite des espèces protégées?
C'est parce qu'on a trouvé qu'il y avait une zone vide ou une zone sombre.
Un certain laisser-aller.
Exactement, dans la conservation. Et ceci pourrait vous épater, mais nous sommes jusque-là, nous sommes la seule organisation en RDC qui fait ce que nous faisons.
Vous faites quoi exactement sur terrain?
Alors, nous sommes subdivisés en 5 départements. Nous avons un département d'enquête qui s'occupe de la collecte de renseignements sur le terrain. Et avec la technologie moderne, ils sont en mesure d'envoyer les données en temps réel au niveau de la base où nous avons un département d'analyse des données. Et nous avons des analystes qui décode, qui interprète en fait les renseignements qui sont pris. Et c'est à partir de cette analyse-là, le rapport qui est donné là et qui est envoyé dans le département des opérations, c'est le département qui collabore avec les agents de sécurité. Et ainsi, ensemble avec les autorités locales, notamment l'ICCN, le ministère de l'Environnement et la police nationale, ainsi que les autres services de sécurité. Nous sommes en mesure d'organiser des arrestations.
Est-ce qu'il vous arrive dans vos enquêtes de mettre la main sur des gens qui sont dans les trafics des espèces protégées et autres?
Sûrement oui. Le trafic des espèces fauniques et floristiques est une réalité et il y a des gens qui en tirent gain et ils sont arrêtés du jour au jour parce que c'est une contravention de la loi en fait.
Pouvez-vous nous rappeler le dernier cas sur lequel vous étiez, les dossiers que vous avez suivis récemment?
Je crois que hier il y a eu une arrestation. On ne peut pas citer où pour raison de sécurité, mais hier il y a eu arrestation avec plus d'une cinquantaine de kilos d'ivoire.
Ici à Kinshasa?
Non, pas à Kinshasa. Pas à Kinshasa. Mais c'est un phénomène qui est éparpillé partout. Ceux-là qui ne sont pas dans l'ivoire, ils sont dans des écarts de pangolins, ils sont dans le pot de félin, ils sont dans la viande boucanée. Ce que beaucoup de gens ignorent est qu'il y a une niche, un marché déjà dans la viande boucanée qui quitte Kinshasa vers l'Europe, la zone de l'Union Européenne ainsi que les États-Unis, et ils en tirent énormément gain. Oui, il y a à peu près 10 tonnes de viande boucanée qui quittent Kinshasa pour entrer dans la zone de l'Union Européenne chaque semaine.
Mais non, mais la viande boucanée, ça, on la trouve dans nos marchés, et ça, c'est pas un problème.
Mais maintenant, la viande boucanée ressemble à la viande boucanée. Par exemple, quand c'est déjà boucané, tu ne peux plus différencier la différence entre la viande de bonobo et la viande d'éléphant.
Ou du porc, par exemple.
Ou du porc fumé, par exemple. Donc, et c'est pourquoi c'est un dossier qui est un peu très sensible.
Peut-être aussi les commerçants ou les trafiquants, et ils ne savent pas que ces animaux font partie des espèces protégées, parce que nous vendons par exemple ici à Kinshasa au niveau des Ndolo, où on vend parfois des singes dans des cages et tout ça.
Bien sûr qu'il y a encore un phénomène un facteur de l'ignorance dans tout ceci, mais je pourrais vous dire avec certitude que la plupart des gens, plus de 80% des gens qui sont impliqués dans ce genre de commerce illicite, ils savent que c'est illégal, ils savent que ce n'est pas permis par la loi, mais ils profitent quand même d'un certain laisser-aller, parce que souvent, il y a des lois qui existent, mais souvent, elles ne sont pas appliquées. Il n'y a pas de renforcement de ces lois au niveau de la base. Et ça, c'est dû à plusieurs facteurs, notamment les moyens, les ressources qu'il faut pour le faire. Et peut-être aussi les priorités de notre gouvernement ne sont pas nécessairement orientées dans ce sens-là. Ils ont d'autres priorités. Mais il y a un certain laisser-aller en ce qui concerne les crimes fauniques et floristiques.
Non, mais il y a aussi de particuliers qui aiment avoir ces animaux à domicile pour des raisons des décorations. Voilà. Est-ce que c'est interdit?
C'est strictement interdit alors de détenir, de tuer, de chasser, de blesser, de faire un cadeau, d'acheter ou de vendre un animal intégralement protégé, tel que le bonobo, le chimpanzé, le perroquet gris, l'okapi, ainsi de suite. Il est même interdit d'en avoir une partie de son corps.
Et est-ce qu'ici à Kinshasa, vous tombez dans des cas où certains particuliers détiennent ces animaux à domicile ou pour des raisons de commerce?
Sûrement. D'ailleurs, je dirais que Kinshasa étant la capitale de la RDC, c'est là où se passent toutes les affaires. Et tout le monde est au courant que c'est dans la capitale qu'il y a le boom économique. Et tout le monde veut venir à Kinshasa.
Les circuits d'écoulement des...
Exactement. Parce que, je dirais, 90% ou 95% des braconniers et des trafiquants de la faune, ce sont des gens qui sont attirés par l'argent. Ils ne sont pas attirés par autre chose, ils ne sont pas motivés par autre chose à part l'argent. Ils vont souvent là où
ils sont. Monsieur Adam, pensez-vous que des jeunes peuvent jouer un rôle capital dans la lutte contre la criminalité faunique ici en RDC?
Alors, selon nos statistiques, toutes les arrestations qu'on a fait, 90% ce sont des jeunes de moins de 35 ans. Et cela montre que les jeunes ont un rôle majeur de jouer là-dedans. Les trafiquants,
les commerçants
de ces espèces ne sont pas des extraterrestres. ce sont nos frères, ce sont nos cousins, ce sont nos amis. Alors c'est beaucoup plus facile quand la jeunesse s'y implique et qu'il commence à être conscient que ces animaux ne représentent pas seulement des animaux. Ces animaux représentent une ressource énorme pour notre pays. Et nous, étant un pays qui a une population aussi jeune, nous avons intérêt, en tant que jeunes, de s'intégrer, d'essayer de se mettre là-dessus pour les protéger, parce que nos vies en dépendent dans le futur. De la même manière que nous voulons protéger l'or, le coltan et les diamants de la RDC, nous devons aussi protéger la faune et la flore de notre pays. En fait, c'est parmi les choses qui font notre fierté au niveau national et international. Vous allez remarquer qu'il y a un pays qu'on appelle le Kenya. C'est un pays qui n'a pas de ressources minières. C'est un pays qui n'a pas de ressources extraordinaires comme les autres. Mais quand vous comparez les infrastructures du Kenya et celles de la RDC, vous voyez la différence.
Oui.
La seule ressource qu'ils ont, c'est le tourisme. Donc, il y a des gens qui viennent de partout au monde pour venir à admirer la beauté de leur pays,
les faune, animaux, la faune, la flore,
les fleuves, les lacs, ainsi de suite, la culture. Et nous, en tant que Congolais, parmi les deux géants de l'Afrique, nous et le Nigeria, on devrait normalement capitaliser sur ces ressources-là. Nous avons toute une diversité de ressources et on doit y capitaliser. Pour le moment, nous avons par exemple la conférence pré-COP qui se tient ici à Kinshasa.
Oui, dont les travaux de clôture ont eu lieu hier.
Voilà, l'objectif c'est de préserver nos forêts parce que c'est parmi les atouts que nous avons. Et quand vous regardez le travail que nous faisons, nous contribuons aussi à préserver cette forêt parce que ces animaux, nous les appelons les jardiniers de la forêt. Il y a par exemple la semence. Si ça ne passe pas dans par le système digestif d'un animal, tel que l'éléphant ou le gorille, ça ne peut plus repousser. Et par conséquent, protéger ces espèces fauniques, indirectement nous protégeons la forêt du bassin du Congo, qui est, il paraîtrait même que c'est devenu la première forêt la plus vaste du monde, parce que l'Amazonie a été envahie de partout.
Oui.
Et que l'humanité, le seul espoir que l'humanité a pour l'oxygène, c'est le bassin du Congo.
Donc mais dites-nous d'où vous est venue la passion de vous investir dans ce secteur de la lutte contre la criminalité faunique.
Alors, Tati, c'est depuis mon jeune âge. Vous savez, à l'école que j'ai fréquentée, que je ne veux pas citer là, on nous obligeait souvent de nous exprimer soit en français ou en anglais. Il était strictement défendu de parler sa langue maternelle à l'école. Et si on le faisait, les filles, je crois, on coupait les cheveux. Et pour nous, les garçons, on nous faisait porter
le crâne
des chimpanzés. Okay. En ce temps-là, je ne savais même pas que c'était un chimpanzé. Il y avait les potes qui couraient derrière vous à train de chanter. Une sorte d'humiliation, quoi. Et vous voyez, ces gens d'histoire, c'est des choses qui nous découragent, qui découragent la jeunesse, parce que on commence à comparer la situation qu'on a vécue à l'école avec le monde réel phonique.
Exact.
Que quand on parle du gorille, c'est pour minimiser les gens, alors on les laisse. Je suis né, j'ai grandi à peut-être 40 kilomètres de là où se trouvent les gorilles de montagne.
Au nord Kivu?
Au sud Kivu.
À Bukavu.
À Bukavu.
Okay.
Je ne les ai jamais vus dans leur milieu naturel. Mes parents sont nés juste à côté. Ils n'ont jamais vu un gorille. Et tout ça parce que on nous a toujours fait croire que la conservation était pour toute autre personne, sauf nous les Africains. Et pourtant, c'est une ressource qui nous appartient. Et c'est ainsi que je vais encourager les jeunes. Ces gorilles, ces okapis, ces pangolins, ça nous appartient. Nous devons en prendre soin. Parce que nous allons manger là-dedans. Notre gouvernement va bénéficier. Les business vont s'ouvrir, tels que les hôtels, les restaurants. Ils auront leurs dividendes. Tout le monde est content.
Mais est-ce que pouvez-vous nous faire une idée sur les difficultés rencontrées sur terrain dans les travaux que vous faites?
Je crois que la plus grande difficulté que nous avons, c'est de... D'abord, la corruption. Alors, sans la corruption, il n'y a pas de trafic ici des espèces fauniques. En fait, il n'y a même pas de trafic sans corruption. Deuxièmement, nous avons un défi de travailler en réseau. C'est-à-dire que des fois, il y a des ressources qui sont doublées parce que les acteurs sur le terrain ne se communiquent pas. Mais si on se communiquait, on saura se partager des tâches. On dit alors celui-ci va à gauche, l'autre va à droite. Mais vous allez vous rendre compte que discrètement, vous travaillez peut-être sur le même dossier. Celui-ci a gaspillé des ressources, celui-ci a gaspillé des ressources pour finalement vous rencontrer que vous travaillez sur un seul dossier. Mais quand il y a communication, c'est beaucoup plus facile de se partager des zones et d'attaquer au plus vite possible.
Mais est-ce que vous bénéficiez dans vos activités des subventions de l'État? Vous avez des partenariats? Est-ce que les autorités sont réceptives dans les actions que vous menez sur terrain?
Sûrement, oui. Ça n'a pas toujours été facile, mais progressivement, il y a une sorte de réponse positive. D'ailleurs, l'ICCN qui est notre partenaire, le partenaire le plus proche, privilégié, qui continue à nous soutenir toutes les actions que nous menons sur le terrain, nous les faisons dans ce cadre-là. Notre tâche est de venir en appui à l'État congolais, mais aussi c'est un partenariat donnant-donnant. Nous recevons un soutien administratif, un soutien politique, un soutien moral. Et nous apportons l'expertise et autre chose. Bien sûr que nous avons aussi d'autres partenaires qui ne sont pas nécessairement l'État et qui soutiennent le bon travail que nous faisons. Ça n'a jamais été suffisant, mais quand même, il y a quelque chose.
Oui, est-ce que lors des travaux préparatoires de la COP 27, vous avez un plaidoyer, vous avez amené un plaidoyer sur lequel il faut que la RDC travaille dans le cadre de la criminalité, de la lutte contre la criminalité phonique?
Sûrement, nous avons deux ou trois. Le premier, c'était d'abord de lister l'okapi sur la liste CITES. Jusqu'à aujourd'hui, l'okapi, qui est un animal endémique à la RDC, la fierté en fait de notre nation, oui, n'est pas listé sur les appendix CITES. Et cela implique que quelqu'un peut prendre un okapi ici, aller le vendre en Ouganda ou en France, ce n'est pas une infraction. Et il y a la CITES qui dit que si on prouve qu'à l'international, un animal est affecté négativement, vous pouvez faire une application et commettre cet animal là-dessus. Le deuxième plaidoyer que nous avons, c'est de créer un tribunal spécial contre les crimes phoniques et floristiques. Et quand nous parlons de ça, on n'est pas en train de parler d'un immeuble qu'on va ériger et équiper. Non, on est en train de parler d'un effort commun. Toutes les parties viennent ensemble. On s'est dit que dès qu'il y a un dossier, on appelle le magistrat tranche.
Comme c'est le cas pour le tribunal pour enfants, par exemple.
Comme c'était le tribunal aussi pour les femmes violées à l'Est. C'est quelque chose qui pourrait facilement aider à avancer les choses positivement.
Et pourquoi? Parce que ces gens de cas ne sont pas très bien documentés au niveau de la justice?
Ça, c'est sûr. D'ailleurs, la plupart des officiels du parquet ne savent même pas cette loi. Ils ne comprennent pas la loi. Ils vont vous demander des choses comme ça. Alors qu'il y a toute une loi, la loi 14/003 de 2014, relative à la faune et à la flore. Et donc, ça, c'est encore un défi à relever. Et c'est pour cette raison qu'on voulait avoir quelque chose qui pourrait faciliter les dossiers pour qu'ils ne traînent pas. La plupart de ces dossiers, ce sont des cas de flagrance. Alors, il n'y a plus d'enquête parce que les enquêteurs sur le terrain auront déjà accompli ça.
Comment lutter contre la criminalité phonique en RDC ou comment impliquer les jeunes au fait dans la lutte contre la criminalité phonique en RDC? Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-6394 par SMS, envoyez-nous vos questions au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service ou par courriel dénommé service@radiokapi.net.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers, un espace vous est réservé. Samedi dimanche, de 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Kapi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiocapi.net et demandez une chanson et nous nous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Nous allons au standard pour donner la parole aux premiers auditeurs qui interviennent dans cette deuxième tranche d'Okapi Service. Kachai, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Kachai, il y a beaucoup de bruit ambiant là, vous êtes, est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous entends, monsieur le journaliste.
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous révéler par rapport au sujet que nous sommes en train de débattre concernant la criminalité phonique, au fait, comment est-ce que les jeunes peuvent impliquer les jeunes dans la lutte contre la criminalité phonique dans les forêts du bassin du Congo?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je commence par saluer l'invité de la radio Okapi et tous les auditeurs en ces temps-ci. Et vous remercier aussi pour l'occasion que vous donnez pour intervenir à ces instants. Alors, la criminalité des jeunes dans le bassin du Congo. Vous savez, monsieur le journaliste, d'abord, ce qui est à la base de cette criminalité-là, c'est le manque d'encadrement des jeunes. Car il n'y a pas un cadre d'encadrement des jeunes, les jeunes sont capables à tout. Et ils se donnent des idées pour commettre des bévues à tout moment. Mais lorsqu'on crée un où on encadre le jeune à tout moment, on peut en quelque sorte faire lutter contre la criminalité. Deuxièmement, c'est lorsque les jeunes ne sont pas occupés. Quand les jeunes ne sont pas occupés, du matin jusqu'au soir, mais ils peuvent se lancer à des pratiques odieuses. Et cela va énerver. Mais mon souci majeur était de demander quelques précisions à votre invité qui a déjà fait un bon travail sur cette criminalité-là.
Allez-y.
Alors, lorsque, par exemple, les braconniers, qui sont parfois même les étrangers, ceux-là ne sont pas surtout des Congolais, ils viennent aussi d'ailleurs avec les troupes. Maintenant, si par exemple, ils se lancent à tuer, comme ils entrent dans le parc national de Virunga, ils tuent des espèces protégées. Alors, quand ils tuent ces espèces-là, ils sont ennemis, ils sont bandits et ils tuent. Quelle infraction on peut retenir par rapport à cet acte-là? Quelles sont réservées à ceux qui le font? Parce que ce n'est pas la première fois parfois quand on apprend qu'on a tué autant d'espèces protégées et ceux qui ont tué là vaguent librement à leurs occupations. Et le fait de tuer d'abord, y a-t-il une loi? L'invité peut donner des précisions. Une loi qui porte la protection des espèces protégées. Et quand est-ce qu'on peut se lancer à tuer des espèces protégées? Parce que ces espèces-là prennent aussi de l'âge. Et est-ce que le gouvernement organise des moments où il tue lui-même ces espèces-là pour donner de la viande à la population parfois de riveraine? Ça, c'est de deux. De trois. Alors, quelles sont les stratégies que l'État a mises en place, ensemble avec ICSN, pour pouvoir nécessairement lutter contre la criminalité des jeunes face aux espèces protégées? C'est une question de curiosité pour demander à l'invité. L'ICSN, est-ce une institution ou une institution publique de l'État, ou je dirais un établissement public de l'État, ou soit c'est une institution gérée par l'UNESCO? Parce que je ne sais pas comprendre, des fois on dit que l'UNESCO a interdit, l'UNESCO a fait ceci. Alors, les gens qui travaillent au parc, dans les différents parcs là, ils sont payés par l'UNESCO ou soit par l'État congolais? Et s'il y a des actes pour qu'ils puissent répondre, ils doivent répondre aux yeux de l'État congolais ou soit aux yeux de l'UNESCO, qui est une structure internationale des Nations Unies. Merci beaucoup.
Je... vous en prie, monsieur, merci beaucoup, gentil, vous êtes, merci beaucoup, monsieur Kachaï, je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Kanyoka, l'invité aura le temps de répondre à vos préoccupations. Allons cette fois-ci à Lubumbashi pour donner la parole à monsieur Charles, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'invité, ainsi qu'à mon ami Kachaï.
Allez droit au but, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au sujet que nous sommes en train de débattre?
D'abord, j'ai une petite question de précision. Dans la formation classique, il nous a été dit que la conservation de la nature et braconnage et consorts sont gérés, sont dans l'apanage de l'ICCN tout simplement. Mais à attendre l'invité, nous voulons un peu savoir qui lui a donné cette compétence-là. Parce qu'en droit, nous le disons que des compétences sont d'attribution. Alors, on est un peu perdu sur ces points-là, s'il peut nous préciser, s'il vous plaît. Et puis, il a dit quelque part que les gens font les actes conscients. Ils savent que c'est interdit, mais ils en font tout consciemment comme ça. Moi, je pense que si il y a les actes conscients qui se réalisent ça et là, c'est parce qu'il y a aussi l'absence d'une loi. La loi, dans les infractions ordinaires, en tout cas, on n'en parle même pas. Il y a un silence là des morts. On ne sait pas. Comme on a toujours dit encore qu'il n'y a pas de peine sans loi. Voilà pourquoi peut-être la population se permet à faire du n'importe quoi, parce que la loi elle-même, et il a reconnu que même les magistrats n'en savent rien, mais maintenant comment condamner les paisibles citoyens? Et pour terminer, nous avons aussi fait un constat par rapport aux villages qui sont dans les espaces ou dans les aires protégées là. Ce sont les villages complices, messieurs les journalistes. Ce sont les villages qui facilitent souvent des braconnages. Mais apparemment comme ça, c'est la pauvreté vraiment qui fait la pluie et le beau temps. Alors, est-ce que pour arriver aux bons objectifs là, ne faudra-t-il pas délocaliser ou bien déménager cette population-là se trouvant dans les aires protégées, parce qu'ils sont en train de contribuer aussi au braconnage là condamné par l'incité. Voilà un peu ce que nous avons voulu demander.
Oui Charles, merci beaucoup, mais dites-moi, pensez-vous que le jeunes ont un rôle majeur à jouer dans la lutte contre les trafics illicites des espèces protégées dans les forêts du bassin du Congo?
Merci pour la question, monsieur le journaliste. En tout cas, on est fatigué avec la condamnation des jeunes. Nous sommes pointés du doigt dans tous les problèmes de la RDC. C'est toujours les jeunes, les jeunes. On ne sait pas qu'est-ce qu'on avait fait dans ces pays ici. Et pourtant, ils n'ignorent que les jeunes sont manipulés par les politiciens. Les jeunes sont manipulés par les superpuissants économiquement. Alors, cette question-là, moi, je pense que s'il faut que les jeunes puissent jouer un rôle quelconque, il faut d'abord commencer par conscientiser ceux-là qui manipulent les jeunes. Voilà un peu ma façon de voir les choses.
Merci beaucoup Charles. Je rappelle que c'est depuis la ville de Lubumbashi que vous intervenez. Cette fois-ci, allons en Kananga pour donner la parole à Gentil, à qui on dit bonjour. Gentil, vous êtes à Kananga, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Marcel.
C'est plutôt Tati, allez droit au but.
Oui, Tati.
Oui, nous parlons de comment impliquer les jeunes dans la lutte contre la criminalité faunique dans les forêts du bassin du Congo. Par rapport à ces sujets, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Allô, Gentil? Gentil n'est plus en ligne, donc monsieur Adam, comment répondez-vous à Kachaï qui voulait savoir au fait la démarcation qui existe entre l'ICCN et l'UNESCO? Parfois on dit ça fait partie, certaines espèces sont classées par dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, alors que les aires protégées sont de l'apanage de l'ICCN.
Alors l'ICCN n'est pas géré par l'UNESCO. Mais par contre, l'UNESCO est une organisation internationale qui identifie et protège certaines merveilles du monde. Et par exemple, ici chez nous, nous avons le parc de Virunga, nous avons
la Salonga, les Kaoziviega, les Maïko,
qu'on appelle communément des sites protégés par l'UNESCO. C'est-à-dire que ce sont des sites que là où on a identifié certaines espèces, une biodiversité qui est rare et que le monde entier a tout toute la responsabilité de protéger. Alors, je dirais que l'ICCN est en partenariat aussi avec l'UNESCO, mais pas nécessairement qu'il existe une certaine interdépendance entre les deux. Donc l'ICCN est une institution para-étatique du Congo. Je crois qu'on les appelle les entreprises publiques, ici en RDC, et ils travaillent sous tutelle des trois ministères. Je crois le ministère de l'environnement, le ministère du tourisme et le ministère de la défense pour le moment. Donc c'est une institution purement congolaise.
Et il faut aussi souligner que la RDC a signé certaines conventions telles que CITES pour dans le cadre de la protection des espèces qui sont menacées d'extinction à travers le monde au fait.
Sûrement, il y a des décrets, des conventions internationales dont nous faisons partie, telles que la CITES. Et la CITES, c'est une institution internationale aussi qui régule le commerce légal des espèces fauniques et floristiques. Et donc, nous adhérons à cette idée global de dire que nous devons protéger toutes les espèces du monde, en particulier nos espèces endémiques que nous avons ici à l'RDC.
Oui, Kachai de Kanyoka, il a fait aussi allusion à l'absence de l'information. En fait, beaucoup de gens ne sont pas informés qu'il y a, par exemple, des lois qui régissent les secteurs fauniques. Il y a aussi un problème de sensibilisation. Est-ce qu'il vous arrive, dans le cadre de vos activités, d'aller sur terrain, sensibiliser les jeunes, édifier les jeunes sur l'importance qu'il y a à préserver ces espèces fauniques?
Une grande partie de notre travail, c'est de sensibiliser, d'informer et d'éduquer les masses. Et je voulais dire, parce que deux de trois intervenants qui ont posé des questions, ils ont dit, il y a même ceux-là qui ont confirmé qu'il n'y avait pas de loi là-dessus. Alors à partir de maintenant, je peux vous confirmer qu'il existe bel et bien une loi. Cette loi s'appelle la loi 14/003 de 2014 relative à la faune et à la flore. Et cette loi détaille non seulement les espèces intégralement protégées en RDC, mais il y a des peines qui vont d'entre une année et 10 ans pour quiconque serait attrapé en train de chasser, tuer, blesser, vendre, acheter une espèce ou les parties de son corps, que ce soit ici au pays ou à l'étranger.
Nous retournons au standard, monsieur Adam. Il y a des auditeurs qui attendent, qui veulent intervenir. Ici à Kinshasa, monsieur Conscience, bonjour.
Bonjour.
Allez, droit au but, qu'est-ce que vous avez à nous révéler par rapport au sujet que nous sommes en train de débattre?
Oui, bonjour Tati. En fait, je remercie aussi l'invité pour le sujet, et vous aussi. Je pense que l'invité a beaucoup plus abordé l'aspect interdiction. Et moi, j'aurais souhaité à ce qu'on aille beaucoup plus dans l'aspect sensibilisation. Il y a même des choses que l'invité a dit aujourd'hui sur les lois qui existent et que même nos magistrats ne connaissent pas.
Ils ne sont pas
connus, oui. J'aurais souhaité à ce que, quand vous parlez de la jeunesse, je pense que c'est la meilleure partie de la population qui peut faire en sorte que les airs soient protégés ou que les animaux ou la faune soient protégés. Il faudrait aller aussi dans l'aspect lucratif. Montrer aux jeunes qu'en dehors de autres emplois, la protection de la nature constitue une source très importante de revenus. J'aurais souhaité à ce que ça soit comme ça. Et je préfère même que l'invité donne ouvertement l'adresse, les coordonnées, qui peut faire en sorte que les autres personnes puissent le contacter. Moi, je suis pour des écoles de formation qui vont dans ce sens-là. Nous avons été habitués avec la colonisation à des formations sur des emplois qui nous sont inutiles. Or, avec cette histoire des bassins du Congo et la richesse qu'elle regorge, j'aurais vraiment souhaité qu'il y ait des écoles spécialisées uniquement pour cet objectif-là. Qu'un jeune sache qu'en allant dans une école de la protection de la nature, voici comment je peux avoir de l'emploi, et voici ce que la protection de la nature génère comme revenu plus que les autres emplois.
Merci beaucoup, Conscience. C'est une très bonne suggestion. Je pense que Adam aura commenté là-dessus. Restons à Kinshasa, pour donner la parole à nouveau à un autre auditeur. C'est Malonga, bonjour.
Oui, bonjour Tati, bonjour notre invité, à tous ceux qui nous suivent à ce moment ici.
Allez droit au but.
Ok, merci beaucoup. Bon, pour lutter contre la criminalité phonique, en tout cas, Tati, d'abord il faut étudier, vraiment critiquer l'état des choses. Vous savez, le gouvernement qui n'arrive pas à finir la guerre qui se naissent dans le pays. Bon, comment est-ce qu'on va atteindre vraiment atténuer la criminalité phonique? Il faut mettre la paix d'abord dans le pays. Après cette paix, il y a les chargés, il y a les gardes de parquet.
Mmh.
Et il y a aussi les chargés de la sécurité. Ils doivent sécuriser cette faune. Mais là où il y a la guerre, par exemple, là à l'Est, demandez d'abord aux habitants de l'Est, dans les parcs de Kaouzi, dans les parcs de Garamba, tout ça, là où il y a le mouvement des groupes armés. Mais la faune est sabotée. Comment est-ce qu'on peut contrôler la faune là-bas? L'invité vient de dire qu'il y a des lois qui interdisent si on voit quelqu'un qui achète ce cela. Mais traverser d'abord Rwanda, là où il y a nos singes, nos mikombos, tout ça sont là. Bon, est-ce qu'on les arrête? D'abord, il faut chercher d'abord à instaurer la paix dans le pays.
Mmh.
Et puis les services appropriés sont là. Entre les services appropriés sont là, les gardes de parquet sont là, la police est là, donc la sécurité est là. Mais s'il n'y a pas la paix dans le pays, pour régulariser vraiment cette criminalité phonique, c'est impossible, Tati, impossible.
Oui, mais Malonga, dites-nous, pensez-vous vraiment que c'est important d'impliquer les jeunes dans des programmes de lutte contre la criminalité phonique dans les forêts du bassin du Congo? Est-ce que c'est vraiment important, capital?
Oui, c'est capital, mais dans l'état de la paix. Mais si à cet état, c'est exposer cette jeunesse aussi. Hein? C'est exposer cette jeunesse. À moins que la jeunesse, on l'envoie d'abord à la formation militaire, qui devient de militaire, puisqu'ils vont s'accrocher aux agresseurs, aux rebelles. Bon, comment est-ce qu'ils vont se défendre? Mais s'il y a la paix, en tout cas, cette lutte contre la criminalité phonique, vraiment, ça c'est là très très bien. Mais j'insiste encore, s'il n'y a pas la paix, en tout cas, Tati, on ne peut pas vraiment sécuriser la faune et la flore de notre pays. Puisque la population d'abord meurt comme des chiens. Comment est-ce qu'on va sécuriser les singes et les arbres? D'abord, il faut sécuriser d'abord la population civile. C'est ça, Tati.
Merci beaucoup. Je rappelle que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. Adam, comment répondez-vous à la suggestion des consciences de Kinshasa?
Oui.
Dit qu'il faut vraiment tabler sur la sensibilisation et puis des écoles spécialisées dans la formation sur les questions liées à la protection de la flore et de la faune.
Allez-y. Alors, la sensibilisation fait partie, c'est une grande partie de notre travail. Mais comme vous savez, notre pays est vaste. Il est vaste, nos populations sont dispersées par-ci, par-là. Aussi, l'accessibilité de notre pays n'est pas si facile.
Mmh.
Mais je pourrais vous garantir que nous y allons mollo. Ce n'est pas un travail d'un seul jour, c'est un travail qui est continuel, éduquer les gens. Mais aussi, dans le même sens, je sais que l'ICCN a aussi un programme qu'ils envisagent faire en ce qui concerne impliquer la conservation dans les curriculums de notre système d'éducation.
Enseignement des bases.
Exactement. Mmh. Et quelque chose qui sera très important et que la conservation sera vue comme une autre option parmi d'autres carrières. Donc ça sera quelque chose de super bien. Il y a déjà des partenaires que je connais qui travaillent là-dessus. Mais aussi, en passant, je voulais répondre à une question qui nous a été posée, nous demandant comment est-ce que nous travaillons, pourtant nous faisons ce que l'ICCN devrait faire.
Mmh.
Alors, il y a un programme à l'ICCN qu'on appelle PPP, c'est-à-dire un partenariat public-privé, et qui permet soit aux entreprises privées, à la société civile et aux organisations internationales de rentrer en partenariat avec l'institution et de leur venir en appui. Et c'est ainsi que Conserve Congo fait partie de ce programme-là. Et avec le contrat que nous avons, nous représentons certains intérêts de l'ICCN à travers ce partenariat PPP-là.
Donc les jeunes aussi peuvent suivre ces mouvements?
Bien sûr, pourquoi pas. Tout le monde à son niveau est appelé
à porter sa pierre dans
les défis que nous avons dans la conservation. Et je crois qu'avec les pré-COP qui est ici à Kinshasa, les jeunes devraient comprendre que la RDC, c'est en fait un pays solution. Et quand on parle de la forêt, il y a beaucoup d'autres choses qui vont avec. Vous allez à côté de nos forêts, là-bas, il n'y a même pas d'hôtel. Quand nous avons des visiteurs, ils vont dormir où? Donc, quelqu'un, j'encouragerais quelqu'un de Goma, quelqu'un de Bukavu, quelqu'un de Monkoto, quelqu'un de Iziro, de faire un petit lodge, que quand les visiteurs viennent, ils peuvent dormir quelque part et payer en monnaie locale ou monnaie internationale, les devises comme on les appelle. Et ainsi, la maman, la voisine aussi va ouvrir un petit restaurant là-bas. Et ainsi de suite, quelqu'un aussi va se lancer dans le tourisme, aller inviter les...
Et comme guide touristique.
Aller inviter les visiteurs de leur pays et les amener ici, organiser des exhibitions.
Qu'on se le dise, il y a beaucoup d'opportunités dans les secteurs. Le secteur n'est presque pas exploité.
Tati, le secteur... Nous, s'il y a quelqu'un, s'il y a un seul pays qui devrait profiter du tourisme en Afrique, la RDC devrait être là. Regarde notre situation géographique qui est un peu stratégique. La RDC relie le nord et le sud du continent, l'est et l'ouest. C'est-à-dire que nous avons cette opportunité non seulement de d'attirer les touristes qui viennent d'autres continents, mais aussi les touristes qui viennent de notre continent.
Oui, qui sont dans le pays frontalier. Dans le pays frontalier. Les 9 frontières.
Nous sommes les seuls pays qui a 9 voisins. Donc, il y a des possibilités de se développer, des possibilités de faire de bonnes affaires. Dans notre pays, on n'a pas besoin de quitter pour aller chercher ailleurs ce que nous avons déjà ici chez nous.
Oui, mais concernant la vulgarisation de la loi portant protection des espèces fauniques et la flore, ça nécessite aussi de moyens. Est-ce que vous avez le moyen pour aller au fin fond du Congo, sensibiliser les jeunes, les impliquer dans ce que vous faites?
Avec le peu de moyens que nous avons, nous le faisons à notre niveau. Mais vous devez comprendre que ce n'est pas juste nous qui faisons ça. Il y a d'autres membres de la société civile qui aident l'ICCN ainsi que le ministère à faire cela. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Ça sera
graduel,
d'une manière progressive, en train d'éduquer la masse. L'éducation n'a pas de fin. On va continuer à le faire. Et vous, les gens de médias, vous avez aussi un rôle à jouer là-dedans. Nous donner cette plateforme pour essayer d'instruire notre population. C'est très, très important.
Et quand vous menez des enquêtes sur terrain, est-ce que les gens qui sont dans ces commerces, ces trafics illicites, est-ce qu'ils comprennent les actes qu'ils sont en train de poser? Est-ce qu'ils comprennent la portée de ça?
Sûrement. C'est un crime et tout le monde qui est impliqué là-dedans connaît les implications. C'est un risque qu'ils prennent. Malheureusement, avec la situation actuelle, c'est encore un crime qui a moins de risques et plus de revenus. Et c'est ce qui attire les gens dans ce genre de crime. On aimerait que le contraire soit instauré, que ça soit un travail à haut risque et avec trop peu de revenus. C'est ça notre lutte, en fait. Parce que si on arrive
à inverser la tendance,
oui, alors ça sera une peine perdue de s'impliquer dans quelque chose qui pourrait te donner 20 ans de prison, alors que ça te donne seulement 100 francs congolais.
Oui, on me signale que Gentil de Kananga est en ligne. Gentil, bonjour. Gentil, vous intervenez depuis la ville de Kananga, bonjour. Malheureusement, c'est comme s'il y a un problème de liaison téléphonique avec Gentil au niveau de la ville de Kananga. Et en même temps aussi, la forêt du bassin du Congo, les forêts, c'est 60%, c'est nous qui avons 60% de potentialité. Et des jeunes peuvent se lancer dans différentes activités dans ces rayons-là pour développer l'économie et puis épanouir, développer les secteurs.
Il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons des sociétés, des grumes qui font le bois ici chez nous, mais je n'ai jamais vu des grands ateliers pour en faire de meubles. Donc cela ne marche pas pour nous, ça marche plutôt contre nous, que nous exportons nos ressources brutes et ça nous revient en produit fini et on doit payer des prix exorbitants. Pourquoi est-ce que les jeunes, les techniciens ne peuvent pas s'impliquer, avoir des partenariats avec ces sociétés dès que ça arrive à Maluku et ils récupèrent ça? Et je ne dis pas qu'ils doivent le faire avec les clandestins, ils doivent quand même en faire avec des gens qui ont des permis, qui ont reçu des autorisations officielles de faire le bois. Et ainsi, nous allons voir que notre pays va, va aller de loin.
Oui, mais j'ai constaté aussi, Adam, dans les travaux préparatoires de la COP27, un accent particulier n'a pas été mis sur cet aspect hein, des trafics illicites des espèces animales et végétales protégées dans les différents ateliers.
Si, si, il y en a. Comme pour preuve, hier, on a eu une présentation dans la salle 2. Écoutez, la lutte contre les trafics des espèces fauniques, indirectement, c'est lié étroitement avec la restauration de nos forêts et la sauvegarde de ces forêts.
Communautaire et autres.
Exactement. On ne peut pas parler de la faune sans parler de la flore. Ce sont deux choses qui sont interdépendantes. Quand vous parlez de la faune, ils ont un chez eux. Chez eux, c'est dans cette forêt-là. Mmh. Quand vous parlez de la forêt, ils ont des jardiniers. Ils ont des sentinelles. Ils ont des décorateurs. Ce sont ces animaux-là. Alors, on doit en parler comme un ensemble.
Et quel message souhaiteriez-vous que l'on puisse amener hein, aux travaux en Égypte, au fait, pendant les assises de la COP27?
Je crois qu'avec le peu de temps que la pré-COP a été ici, j'ai compris une chose. Mmh. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est l'évangile qu'on a toujours prêché. Il y a trois choses pour essayer d'équilibrer l'équation et essayer de gérer nos forêts comme il le faut. Il nous faut trois choses. La première des choses, nous devons avoir des lois qui sont en vigueur.
Des lois, elles existent.
Elles existent. Nous devons maintenant les appliquer. Mmh. De deux, nous devons prendre soin des populations riveraines, leur donner des options. Défendre aux gens, prohiber aux gens de manger la viande boucanée, c'est bien. Leur défendre de couper les arbres, c'est bien. Mais leur donner des techniques de l'agriculture moderne, leur donner des formations
sur l'élevage,
la pisciculture, l'agriculture, l'agroforesterie. Nous avons des terres arables.
Et ça va générer de l'emploi, revenus aux communautés locales. Parce que quand vous êtes dans ces milieux, c'est la pauvreté qui saute aux yeux.
Voilà. Quelqu'un qui n'a même pas... Il n'y a pas d'hôpital. Il y a certains coins juste à côté de nos parcs nationaux où pour accéder aux médicaments de la malaria, ça pourrait vous prendre 4 jours si vous avez l'argent. Et quand vous n'avez pas d'argent, vous mourrez. Alors, voilà les défis à relever. Et dès que ces défis sont relevés, maintenant...
Il y a aussi la dimension éducation environnementale, Adam.
Bien sûr, l'éducation. On ne peut pas parler de ces deux sans parler de l'éducation. On ne peut même pas punir quelqu'un qui n'a pas été éduqué. Sinon, ça devient injuste.
Oui.
Et on ne veut pas être injuste.
Merci beaucoup. Je le considère comme votre dernier mot. Merci d'avoir été avec nous hein, pour parler de ces sujets concernant la lutte. Comment est-ce qu'on peut impliquer le jeune dans la lutte contre la criminalité faunique? Pour des gens qui aimeraient entrer en contact avec vous, est-ce qu'il y a les moyens par lesquels ils peuvent procéder?
Oui, oui, vous pouvez nous contacter par email. C'est conserve, CONSERV, Congo, en un seul mot, conservecongo, @gmail.com. Vous pouvez aussi nous avoir sur WhatsApp, +243 970 440 110. +243 970 440 110.
Adam Kasinga, je rappelle que vous êtes promoteur de l'ONG Congo Conserve qui travaille, rappelez-le s'il vous plaît, vous êtes dans quel créneau?
Nous sommes dans la lutte contre le trafic illicite des espèces fauniques et le braconnage. Alors nous sommes basés ici en RDC, si vous voulez nous voir, vous pouvez nous contacter via notre courriel et via WhatsApp.
Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine occasion, monsieur Adam Kasinga.
Merci beaucoup.